Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque, septième de notre cinquième saison. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Alain Perea.
Bonjour.
Député En Marche de l'Aude. Vous êtes ressorti pas mal dans l'actualité ces temps-ci, Alain Perea. Ça tombe bien, on va pouvoir vous poser un certain nombre de questions et évoquer cette actualité chargée, bouillante, même parfois effervescente. Mais bien entendu, nous avons un sommaire. Michel, tu proposes tout d'abord d'attaquer par un livre sur la franc-maçonnerie de Jacques Molena, qui est un grand spécialiste. C'est pas le premier livre, c'est peut-être pas le dernier d'ailleurs non plus, mais c'en est un qui vient de sortir récemment. En deuxième partie, un coup d'œil sur ce que tu intitules « La guerre des crématoriums ». En fait, c'est une guerre ville-aglo.
C'est ça.
C'est presque banal de dire
enfin,
une opposition parfois quand même assez virulente. Dans notre deuxième partie de ce sommaire, les filets jaunes sont lancés pour les européennes. Les filets jaunes étant une prolongation naturelle, peut-être des gilets jaunes. Enfin bon, tu nous expliqueras. Et on finira par un conseil municipal de la ville de Narbonne de ce jeudi qui fut... Bon, je ne sais pas s'il fut très original, mais enfin, il fut quand même assez heurté, et voire un peu folklorique parfois, de temps en temps. Mais tout d'abord... le livre sur la franc-maçonnerie, alors dans la région, donc évidemment aussi à Narbonne.
Oui, c'est Jacques Molena qui vit et travaille à Montpellier. C'est un journaliste assez connu dans cette région, enfin dans l'ex-Languedoc-Roussillon
Et qui est sur la place depuis longtemps.
Oui, moi je l'ai connu, c'était dans les années 85, j'arrivais à Montpellier
d'ailleurs. Ajoutons les années 70, il était déjà présent.
Donc il vient de nous livrer son dernier ouvrage qui est intitulé « Voyage indiscret chez les francs-maçons du Midi », milieu qu'il connaît bien puisqu'il a fait toute une série faite d'articles, de dossiers disons, sur les principales villes de l'ex-Languedoc-Roussillon. Entre parenthèses, son livre là du coup s'étend à Midi-Pyrénées et à la Corse et à PACA. Et à l'occasion de ces dossiers, bon voilà, il a présenté le portrait maçonnique, si je puis dire, de chacune de ces grandes villes, dont Narbonne.
Et précisons qu'il a longtemps été une plume de l'Express.
Exact, oui. Une plume, faut-il le préciser, de qualité. C'est pas l'ami qui parle de Jacques Molena, c'est tout simplement celui qui aime bien lire, en fait,
il a tenu sa place.
Voilà. Et donc, comme dans son habitude, d'ailleurs, entre parenthèses, dans ce livre, Jacques Molena fait montre d'une, ce que j'appelais, moi, une bienveillance critique, c'est-à-dire que son voyage indiscret, il le fait, mais au plus près de la réalité du terrain. Et
Parce que sur la maçonnerie, on peut vite déborder. Voilà, d'ailleurs, lui-même qualifie ça d'usine à fantasmes.
Oui, c'est pas le marronnier qu'on lit habituellement l'été, hein, juste avant, pendant les vacances d'ailleurs, quand il n'y a plus de publicité pour rentabiliser les hebdomadaires.
Bon, c'est quand même plus sérieux, dis-tu.
C'est plus sérieux. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui est fait sans vénération, sans animosité, mais qui est intéressant. Pourquoi ? Parce que le Midi, en général, est une terre où les initiés, pour prendre un terme que les francs-maçons connaissent bien, sont deux fois plus nombreux qu'ailleurs en France. Première caractéristique. Hein. Et pour illustrer en fait, et donner le ton de ce propos, Jacques Molena précise d'entrée que le conseil municipal de Montpellier a compté sous la magistrature d'Hélène Mandroux, en fait, qui était la mairesse socialiste, jusqu'à 40% d'initiés.
Oui, ce qui une bonne dose. Oui.
Et qu'à Narbonne, ben, on y vient, quoi, petit à petit. À Narbonne, 53 000 habitants, on compte à peu près 800 frères et sœurs, ce qui fait de notre ville, Jean-Claude, tiens-toi bien,
recordman,
la plus maçonnique de France.
Ah, bon, ben.
Ce qui est une caractéristique que probablement, peu de nos auditeurs connaissaient. Alors maintenant, bon, ils le sauront. Hein. Alors, je ne dis pas ça pour faire du buzz ou inciter à le regarder.
C'est
ça
une statistique.
Non, c'est une statistique qui est imparable. Alors évidemment, on ne trouvera pas dans ce bouquin d'études démographiques sur d'où viennent-ils, que font-ils, etc., comme métier,
du tout. Oui, parce qu'il faut quand même rappeler pour alors les non-initiés, ceux-là, ceux qui ne connaissent rien à la franc-maçonnerie, qu'une des caractéristiques de cette institution, c'est quand même théoriquement la discrétion.
Oui, alors
voir
coup,
le secret, mais enfin au minimum la discrétion.
Ben là, du coup, tu me permets d'ouvrir une parenthèse. En achetant ce bouquin, ils auront le wou-wou, c'est-à-dire l'annuaire mondain de la franc-maçonnerie de tout le Midi, cet annuaire fait au moins 3 ou 4 pages, à la fin du bouquin.
Ouais.
Et ils y découvriront des personnalités de Narbonne bien connues, dans le monde politique, dans le monde économique et dans le monde culturel.
Mais ce qui n'est pas dans la culture, si je comprends bien, quand même de la franc-maçonnerie. Théoriquement, à part soi-même, on n'est pas censé divulguer l'appartenance de qui que ce soit d'autre.
C'est vrai, mais rien n'empêche, à ma connaissance.
Dans la pratique, ça se pratique.
Quoi. Sinon de ne pas le faire savoir, certes, mais après tout, il n'y a rien de... Comment dirais-je? Il n'y a rien de scandaleux à ce que franc-maçon, aujourd'hui, il n'y a aucune crainte,
il n'y a plus de crainte physique comme pendant la guerre de 1940-45, par exemple.
Elle est notoirement connue. Donc, alors ce qui est intéressant aussi dans ce bouquin, pour y revenir,
au-delà du record narbonnais.
Pour en revenir au fond de ce bouquin, ce qui est intéressant, qui est la conclusion d'ailleurs de son analyse, c'est que loin des fantasmes habituels qu'on entend sur fantasmes complotistes, sur la franc-maçonnerie, cette organisation secrète de gens qui manipuleraient le politique, tout le pouvoir politique, les pouvoirs médiatiques, les pouvoirs économiques, ce que démontre, et à juste raison Molina, c'est que la franc-maçonnerie en question, loin d'instrumentaliser le politique, serait aujourd'hui plutôt instrumentalisé
par le politique. C'est ce qu'il dit, en tout cas. Oui.
Et cela me semble plus près de la vérité que l'inverse. Alors, je ne veux pas dire à tous nos auditeurs d'acheter, acheter le bouquin de Jacques Molina, du tout, mais s'ils veulent en tout cas avoir une information à peu près sérieuse, nuancée, et vérifiée de sources sûres sur la franc-maçonnerie dans le Midi et en Narbonne en particulier, qu'il a acheté le bouquin de Jacques Molina.
Oui. Parmi les dernières anecdotes, il y a notre cher Mélenchon qui paraît-il a été menacé ou certains auraient demandé dans son obédience son exclusion. Grand Orient, on peut le dire, puisque ça a été très public.
Non. Alors, soyons précis, Jean-Claude. C'est le Conseil de l'Ordre lui-même, c'est-à-dire l'instance supérieure du Grand Orient, qui aurait demandé à son instance, à sa chambre suprême, de justice, de suspendre provisoirement. Jean-Luc Mélenchon. J'avais d'ailleurs fait un billet sur le sujet, en observant que ça allait susciter des tensions. Ça n'a pas loupé.
Forcément.
Une pétition circule à l'intérieur de cette obédience, contestant la décision du Conseil de l'Ordre. Et elle est menée, d'après l'Express, qui est toujours très bien informé sur le sujet, par un militant de la libre pensée, qui lui-même est un militant de l'organisation, de l'ex-organisation communiste internationale.
Trotskiste,
lambertiste, comme le fut Jean-Luc Mélenchon lui-même.
Oui, voilà. Bon. Alors là, dans un cas comme ça, c'est la maçonnerie qui manipule ou c'est la maçonnerie qui est manipulée?
Ah, mais c'est.
Je crois un peu des deux à la fois.
Je crois que là, effectivement, elle est, encore une fois, au fond, mais il suffit d'être un peu curieux, d'observer la réalité, la vie politique locale. Jacques Molina a raison, je suis totalement
Et la franc-maçonnerie joue-t-elle un rôle dans ce que tu appelles la guerre des crématoriums?
Non, mais je vais donner un exemple pour y venir, tu dis de crématorium. Quand Michel Moynier se fait surprendre par Jacques Molina, qui lui apprend que Jacques Bascou et Élie Abou étaient franc-maçon comme Jean-Luc Soulier, ses opposants au municipal qui opposaient Michel Moynier à Jacques Bascou et à Jean-Louis Soulier. Et Michel Moynier disant « Bon, qu'est-ce que c'est ?» Alors que franchement, l'appartenance maçonnique de Soulier, Abou, qui était républicain et qui a fait une remarque gentille à l'égard de Bascou, franchement, ça n'a apporté strictement aucune voix supplémentaire à Jacques Bascou, de la droite venant des amis d'Élie Bagnou, et surtout, ça n'a modifié en rien le résultat du scrutin.
Bon, as-tu les renseignements précis
pour le
prouver, je ne sais pas.
On
aura peut-être plus beaucoup de temps pour évoquer la guerre des crématoriums. Un petit mot rapide parce que de toute façon, on va y revenir.
Bien sûr, on va y revenir sérieusement,
Elle sera comme celle de 14-18, elle va durer, je crains.
Oui, parce que j'apprends, comme toi, Jean-Claude, que ce crématorium, qui est porté par le par l'agglo en fait initialement, ce projet de crématorium a été discuté, débattu en fait au dernier conseil municipal
jeudi,
qui a voté pour la création d'un crématorium.
Alors de la ville, cette
de
fois-ci,
la ville,
de la ville de Narbonne,
qui serait géré en délégation de service public par une entreprise dont j'ai perdu le nom, peu importe. Et dans le même temps, hein, Jacques Bascou va revenir en fait au prochain conseil communautaire sur le projet qu'il avait initialement présenté d'un crématorium défendu par la commune
située à Montredon
et qui avait été retoqué en fait à l'époque pour au motif que voilà une partie de la majorité et de la droite réunie en fait du conseil communautaire s'était opposée à ce projet, non pas sur le fond en fait mais sur le mode de gestion. D'un côté il y avait ceux qui voulaient le faire gérer par une régie, c'est-à-dire Jacques Bascou en fait et ses amis pour aller vite, et puis d'autres qui voulaient que ce soit sous la forme d'une délégation de service public,
c'est-à-dire
Jacques Martin
par une entreprise privée.
Voilà, Jacques Martin, et ses amis. Donc bon. On en est là aujourd'hui. Donc cette guerre est relancée. La balle est dans le camp pour le moment de Jacques Bascou qui se trouve confronté en fait, à une proposition qui a été votée par le conseil municipal. Alors et dans un contexte, je termine là-dessus, juridique compliqué parce que la compétence, en fait, je tentais qu'on puisse en la lisant attentivement, pompe funèbre est bien effectivement une compétence communautaire. Mais certains prétendent.
Oui, c'est pas si clair que ça.
Que une entreprise, en fait, gérant un crématorium n'est pas une entreprise de pompe funèbre. Donc, le préfet lui-même ne savait pas très bien, effectivement, de quel côté pencher.
Donc, la question reste ouverte, ce qui nous permet de marquer une première pause.